Entretien avec Gilles Le Gardinier. Paris, mars 2015.
Gilles, bonjour. On est ravis de te retrouver. Après Demain j'arrête, complètement cramé et soudain tout change, on est en train d'enregistrer Ça peut pas rater. Et on aimerait que tu nous rappelles comment tu en es venu à écrire des livres, car je crois que tu viens du cinéma à la base.
Oui, alors moi aussi je suis contente de te retrouver, Lisa. Alors comment je m'en suis retrouvé à écrire des livres? À la base, j'ai toujours aimé raconter des histoires, emmener les gens un petit peu dans une réalité décalée. C'est ce qui m'a fait choisir le cinéma au départ, puisque j'ai d'abord été plus proche du cinéma. C'est pour moi un moyen universel, spectaculaire, qui associe quasiment tous les sens à une émotion partagée, avec des gens qui la ressentent ensemble, et ça me fascine. Et puis en travaillant dans le cinéma, ce que je continue à faire, j'ai découvert qu'il y avait un moyen encore plus intime de parler aux gens, leur parler un à un, à travers les livres, et ça m'a beaucoup tenté. Alors, je ne viens pas d'un milieu où on m'a appris que ce que j'allais dire serait attendu par la terre entière. Je suis quelqu'un de plutôt discret, c'est pour ça que je me suis mis au service d'émotions collectives. Et à force de travailler sur des films qui parfois n'auraient jamais dû arriver en salle, je me suis dit, s'il y a un crétin en plus qui tente de raconter son histoire, ça ne devrait pas déséquilibrer l'univers. Donc j'ai osé tenter. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Mais j'avais toujours écrit avant, mais je ne pensais pas que ça pouvait intéresser quelqu'un.
Alors, tu nous disais tout à l'heure que justement, le livre est finalement le seul art qui ne s'impose pas à l'autre, mais en fait où l'autre va piocher, où l'autre va décider quand est-ce qu'il va aller regarder son livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Complètement, c'est une des grandes forces du livre. Quand tu commences à regarder un film, sauf coupure de pub scandaleuse ou une petite fringale, tu vas jusqu'au bout. Un livre, tu es à disposition des gens. Les gens te lisent où ils veulent, quand ils veulent, dans l'état d'esprit qui leur va. Et quand ils en ont assez, quand ils veulent faire une pause, il y a un séquençage, ça s'appelle les chapitres, mais aucun autre art ne propose ça, qui leur permet de s'arrêter, d'avoir une espèce de petite pause, une branche pour se poser en attendant d'y revenir quand ils veulent. Je trouve que ça crée en fait une disponibilité de l'œuvre face à celui qui a envie de la découvrir, qui est juste unique. Les livres sont les seuls à proposer cela.
Et quand on est là, tu en es vraiment à plusieurs livres. Est-ce que tu t'es vraiment installé dans ce métier d'écrivain? Est-ce que tu fais encore autre chose à côté? Et quelle est la journée type de Gilles?
Je m'installerai jamais, c'est pas un métier. Tu peux pas faire ça comme un métier. Quand tu le fais comme un métier, je pense que c'est le début de la fin. J'aime bien comparer à l'affection. Pour moi, écrire, c'est comme tomber amoureux. Donc en fait, tu t'as pas prévu ça. Ça te pourrit la vie, t'as des tas de choses à faire et puis tu tombes amoureux. Donc ça ensoleille ta vie, mais ça te la met par terre. Ça te complique tes journées, tu dors plus, t'as plus la tête au travail, t'as plus la tête au métier. Mais après, si jamais tu t'habitues à ça, non, et c'est des rencontres, c'est vraiment une histoire affective qui doit être sincère, entière et presque imprévue. Alors après, on le fait rentrer dans un process industriel, mais comme je suis un garçon très amoureux de la vie, j'ai pas de mal à séquencer ça, mais j'ai plus d'histoires à raconter que celles que j'ai déjà écrites. Et la promesse que je fais à mes éditeurs et surtout aux lecteurs, c'est dès que j'aurai plus d'histoires à raconter, je ferai pas le bouquin de trop. Je ne viendrai que tant que je serai sincère. Tant que ça me brûle, tant que j'ai envie de le partager, tant que ça m'enflamme de l'écrire, je le fais. Après, mais il y a tellement de jeunes, tellement d'autres livres à lire, tellement d'autres gens à rencontrer, chacun son tour.
Justement, tu nous parles de rencontres. Est-ce que les rencontres que tu as avec tes lecteurs, parce qu'on sait que tu fais beaucoup de tournées en librairie, et je sais que c'est très, très apprécié de tes lecteurs, donc il y a les tournées en librairie, il y a le fait que tu leur répondes. Est-ce que justement, ces échanges, ça a nourri ton écriture?
Ça nourrit pas du tout l'écriture. C'est pas parce que tu cuisines pour tes enfants que tu changes la recette, c'est-à-dire c'est pas eux qui t'apprennent à faire la cuisine, mais tu cuisines pour eux. Et c'est exactement la même chose. À la base, en plaisantant souvent, je dis aux lectrices et aux lecteurs que je suis en entretien d'embauche quand je les rencontre, parce que je travaille pour eux. Mon rêve, mon ambition, c'est de les distraire, c'est d'avoir l'honneur d'être choisi et de les suivre dans leur sac à main, dans leur salon, dans leur lit, et qu'ils m'utilisent quand ça les arrange. C'est vraiment, j'ai le sens de la fonction. Je crois que notre époque le perd un petit peu. Et moi, mon job, c'est d'essayer de distraire les gens de leur quotidien sans les éloigner complètement de ce qu'ils sont. Mais pour le coup, évidemment que c'est la finalité de rencontrer les lectrices, les lecteurs. C'est avec eux que je vis, c'est pour eux que j'écris. Ça n'aurait pas de sens de le faire sans eux.
Moi, ce que j'entends beaucoup dans ce que tu me dis, en fait, c'est la relation à l'autre, le fait que tu écris aussi pour les gens. Il y a une phrase dans ton livre, ça peut pas rater, qui m'a énormément touchée. Si je devais en retenir une, ce serait celle-ci. De toute façon, quand les gens font quelque chose pour vous, c'est toujours bien. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que de rencontrer les autres? C'est-à-dire, moi, une des questions débiles qu'on me pose régulièrement, c'est vous êtes sur une île déserte, quel livre emmenez-vous? C'est comment dresser mon dauphin pour rentrer à la maison, ou je fabrique mon radeau et je rentre voir les miens. Quel est l'abruti qui peut rester sur une île déserte avec des livres? J'adore les livres, mais les humains, c'est tellement mieux. Donc non, la vie n'a de sens et d'intérêt que pour les rencontres, les voitures rouges, les raquettes, alors les sacs à main pour les filles, les ballons pour les garçons, tout ça c'est rigolo, mais parce qu'on joue avec les autres.
Dans ce livre aussi, ce qui m'a étonnée par rapport aux autres, c'est que tu as vraiment décrit le monde de l'entreprise de façon très précise. Pourquoi est-ce que tu as choisi? Alors, il y a vraiment deux lieux. C'est l'endroit où cette jeune fille, Marie, habite, et puis l'entreprise. Pourquoi est-ce que tu as choisi de décrire autant ce monde de l'entreprise? Est-ce que c'est justement parce que dans les rencontres, les gens te parlent beaucoup de leur travail ou...
Non, c'est lié au personnage. C'est-à-dire, quand je parle d'Andrew qui a 66 ans, il n'est plus en entreprise, il ne travaille plus, il en part. Quand je parle de Julie qui est très jeune, elle est en train de changer de travail, et je parle un tout petit peu de l'entreprise d'Esa. Quand je parle de Camille et de Léa, elles sont à l'école, il n'est pas question d'entreprise. Là, Marie, elle a l'âge d'être au travail, donc ça la concerne. Mes livres, très modestement, ne parlent que de la vie. Donc en fait, je parle de ce qui concerne les personnages dans l'âge et dans l'état où ils sont. Donc elle est au travail, le travail devient important. Mais j'essaie pas de choisir des décors ou des ingrédients que je mettrai dans le livre. Je choisis des personnages qui sont toujours en déséquilibre à un moment de leur vie où ils doivent choisir, souvent parce qu'ils sont tombés. Ça nous arrive tous de tomber. On tombe tous. Il y a des moments où on met le genou à terre, des moments où on n'y croit plus, il y a des moments où on doute. C'est pas intéressant de tomber, parce que c'est tellement commun, on l'a tellement tous fait. Ce qui est intéressant et ce qui révèle les gens, c'est la façon dont ils se relèvent. Et c'est là que les personnages prennent toute leur épaisseur. On dit souvent que j'écris des comédies. Mais j'ai quand même écrit sur une femme qui croit plus à l'amour, un homme qui croit plus à la vie, et une gamine qui se demande ce qu'elle va devenir dans la vie. C'est quand même des stress absolus, c'est des terreurs absolues. À la base, ce sont des drames dans lesquels j'essaie d'amener un peu de lumière. Et je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est d'amener un peu de lumière là où il y a de l'ombre. Mais ce sont les personnages qui me disent « je vis là, je suis ça, parle de ça ». Il n'y a pas de calcul en me disant « alors aujourd'hui, je vais aborder la poissonnerie et le garagiste ». Non, ça ne se passe pas comme ça du tout.
On sent vraiment que l'amour que tu portes aux choses que tu fais est très important pour toi. Et dans l'histoire que tu racontes dans « Ça peut pas rater », il y a vraiment aussi ces personnages justement qui aiment leur métier, qui veulent sauver leur entreprise, jusqu'au point en fait d'aller la racheter. Est-ce que ça, tu t'es inspiré justement de ce qui se passe actuellement autour de nous? Est-ce que c'est quelque chose pour toi d'important que les gens vraiment donnent, est un véritable amour en fait de ce qu'ils font?
Alors pour moi, c'est la... La première reconnaissance qu'on a par rapport à la vie, c'est d'être bien dans la place qu'on occupe. C'est la condition première d'un épanouissement. Et l'épanouissement, c'est pas une espèce de volonté mystique qui répondrait à des bouquins de bien-être en vogue. C'est quand on est à sa place, on fait du meilleur boulot. Les fourmis l'ont compris, les rats l'ont compris, les loups l'ont compris, les oiseaux le comprennent. Nous, on arrive encore à gâcher des gens dans des places qui ne sont pas les leurs, ou à faire croire à des gens qui ne peuvent pas occuper certaines places qu'ils peuvent les occuper. C'est à la fois une trahison de ce qu'on est et une trahison de notre espèce. Si on met les gens à leur place, on a un monde qui est tellement varié, des individus qui sont tellement variés, que c'est un gain pour tout le monde, un gain de plaisir, un gain de bonheur, un gain d'efficacité. Je ne sais pas si c'est de l'amour, c'est de l'adéquation pour moi. Et j'ai de l'amour pour mon travail peut-être, mais je ressens surtout de l'engagement et de la sincérité.
Et on sent aussi que tu as beaucoup d'intuition. Alors l'intuition pour te glisser en effet dans tous ces personnages, aussi bien féminins que masculins, plus jeunes, plus vieux, d'horizons différents. Et on sent aussi, quelque part, tu me disais tout à l'heure que tu avais voulu faire des remerciements longs, que les couves, c'est toi qui les as choisis avec les chats. J'ai l'impression que cette intuition est très développée chez toi.
Je sais pas. Je sais pas si c'est de l'intuition. Je fais ce que je crois. Et je ne passe à l'action que quand je suis convaincu. Alors peut-être que ça déclenche un ensemble de phénomènes qui touchent la couverture ou les remerciements. Mais je suis quelqu'un qui agit par conviction, toujours. Donc ça doit se ressentir dans le travail et peut-être dans ce que je fais autour du travail. Mais je n'ai pas de jugement là-dessus, honnêtement. Ce qui m'intéresse, Lisa, c'est ce que je peux faire, pas ce que je suis.
Est-ce que tu as eu des retours sur les livres audio précédents qui existent de tes livres?
Alors, il m'est arrivé une chose magnifique. J'en ai pris conscience très spectaculairement lors d'une dédicace dans la région de Nantes, où j'ai vu un monsieur aveugle arriver avec ses lunettes noires et sa canne blanche. J'ai même redouté que ce soit un de mes camarades qui me fasse une blague idiote. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait découvert mes textes grâce à ton édition. Et ça m'a bouleversé parce que cet homme qui ne voit pas du tout a en fait ressenti de façon encore plus puissante les textes. Et il m'a demandé une dédicace, mais c'était pas ça le plus important. Il m'a pris les mains, il m'a touché le visage. C'était un contact exceptionnellement fort. Et pour moi, c'est la clé de nos métiers. On est des gens, nous, qui proposons une rencontre, et les gens qui nous lisent ou qui nous écoutent sont des gens qui veulent rencontrer. C'est bien.
En tout cas, tes livres nous font vraiment rêver, nous font sourire, nous font pleurer. Est-ce que, justement, ces livres, par le succès qu'ils ont eu, t'ont permis à toi de réaliser certains de tes rêves ?
Très honnêtement, non. Parce que j'ai pas de rêve qui reposerait sur ce qu'on considérerait comme un succès. J'ai une hygiène de vie morale vis-à-vis des gens, de contact, que je pratique depuis toujours. Je suis bénévole dans les lycées, je suis bénévole dans les hôpitaux, je l'étais avant, je continue maintenant. Aujourd'hui, je rencontre les lecteurs. Le seul luxe que m'a permis le relatif succès des livres, c'est de pouvoir parler à des gens que je ne connais pas avec une intimité extraordinaire. C'est-à-dire que je me retrouve face à des gens avec qui j'ai un contact, l'impression de les connaître depuis très longtemps. C'est un gain de temps. La France est un peu un village maintenant pour moi. C'est juste extraordinaire, ça.
Et peux-tu nous parler un peu de tes projets ?
En ce moment même, je suis en train d'écrire la prochaine comédie, s'il faut l'appeler comme ça, qui sortira en octobre donc 2015, qui s'appelle « Quelqu'un pour qui trembler ». Et je pense qu'il fallait que j'écrive les 4 précédents pour être capable d'écrire celle-là.
On a hâte de lire. Et
moi aussi, il faut juste que je l'écrive avant.
Et il me semble que tu avais aussi des projets cinéma.
Complètement cramé est en adaptation. D'accord. On vient de terminer la version complète du scénario. Demain, j'arrête est en adaptation. Et ça peut pas rater. Sera très très bientôt en adaptation, c'est signé.
Bah écoute Gilles, on a hâte de lire, de regarder tout ça. On te remercie et vraiment, merci de nous faire rêver.
Merci Lisa et merci à ceux qui nous écoutent, merci.